Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Après la fête inoubliable jeudi soir à Copacabana, la journée de vendredi aura été en partie placée sous le signe de la pénitence pour les participants aux 28e journée mondiale de la jeunesse à Rio de Janeiro. Chemin de croix et confession sur l'agenda du pape François, mais aussi une rencontre avec des détenus et un repas avec des jeunes. Avec son style simple et spontané, le pontife argentin continue de galvaniser les foules. Au cinquième jour de son voyage au Brésil, vendredi matin, le pape François a confessé une Italienne, trois Brésiliens et un Vénézuélien. À Madrid, Benoît XVI avait lui aussi administré le sacrement de réconciliation. La confession, c'est depuis des années l'un des points forts des Journées mondiales de la jeunesse. À Rio, selon les organisateurs, entre 10 000 et 15 000 confessions ont lieu chaque jour. Pas moins de 50 confessionnaux ont été installés sur les lieux de la foire aux vocations, un parc magnifique, ancienne propriété de la Compagnie de Jésus, qui fut également résidence officielle de la famille impériale brésilienne au XIXe siècle. Les confessionnaux en bois blanc évoquent la forme du Corcovado, la colline de Rio, sur laquelle se trouve l'emblématique statue du Christ Rédempteur surplombant la ville. C'est donc là que le Saint-Père s'est rendu dans la matinée de vendredi pour confesser lui-même des jeunes. François Pérosé, séminariste du diocèse de Fribourg en Suisse, accompagne les 120 jeunes Suisses romands au JMJ. Interrogé par notre envoyé sur place, il souligne l'importance du sacrement de la confession, un sacrement exigeant.
Un sacrement exigeant, mais un sacrement aussi méconnu souvent, c'est-à-dire que dans nos paroisses, si je pense en Suisse, c'est un sacrement qui est demandé avant de recevoir une première communion ou la confirmation. Et je pense que l'occasion des JMJ, de voir qu'on peut se confesser rapidement, simplement, à des occasions, un après-midi, de voir que le Saint-Père se met à disposition pour donner le sacrement du pardon, de plonger vraiment dans cette miséricorde du Seigneur. Je pense que les jeunes se rendent compte que ce n'est pas le sacrement des vieux qui vont le samedi en paroisse. Je pense que ça leur donne l'expérience de toucher vraiment cette miséricorde de Dieu. Monseigneur Lebrun nous disait que c'était le sacrement de l'espérance, et je pense que c'est de ne pas être fataliste, de ne pas se recroqueviller sur soi-même, mais d'oser donc prendre une douche froide pour oser repartir avec le Seigneur.
C'est un sacrement qui est un peu trop délaissé ?
Je pense que malheureusement, souvent dans nos paroisses, on laisse ça un petit peu de côté, on peine à le proposer. C'est clair que c'est un sacrement difficile à présenter, à en vivre. Souvent, on se gêne, on se dit « je dois rencontrer quelqu'un », voilà. Mais l'occasion des JMJ, l'occasion d'un grand rassemblement ici à Rio ou ailleurs, mais c'est l'occasion de peut-être découvrir que c'est quelque chose qui se vit simplement et qui ne nécessite pas d'avoir fait des grosses bêtises avant.
C'est un sacrement sur lequel a insisté beaucoup le pape depuis son élection. C'est quelque chose qui, vraiment, selon toi, fait partie du cœur de son ministère ?
Du cœur du ministère du pape, très certainement, et du cœur de tout chrétien, c'est-à-dire qu'on a 7 sacrements, et je dirais que le sacrement de la réconciliation est comme une sorte de station essence en chemin, c'est-à-dire qu'on vit notre chemin de foi, mais que parfois, on a besoin de faire le plein. Voilà, c'est un peu le pit stop de notre vie de foi. Et c'est très beau que le Saint-Père le montre très simplement en disant « voilà, je suis évêque de Rome, mais je suis aussi un prêtre et je souhaite confesser ». C'est beau de nous montrer un témoignage tout simple de cette station essence justement sur notre chemin de vie.
Je vous le disais, le parc où le souverain pontife a confessé accueille également depuis mercredi un forum des vocations. On le sait, dans plusieurs pays européens, les ordinations sont en chute libre et les vocations religieuses diminuent inexorablement. Tandis qu'en Amérique latine et en Afrique, les sectes et les mouvements évangéliques font à l'Église une concurrence acharnée pour lui ravir des fidèles. Alors comment faire pour que l'Église relève les défis qui se posent à elle, avec plus d'une centaine de stands, mais aussi des tentes pour la prière personnelle et des conférences, le Forum des vocations de Rio s'efforce de faire des propositions concrètes aux jeunes qui se posent des questions sur leur engagement. Le reportage de notre envoyé sur place, Olivier Tosserie.
Il règne une ambiance de fête au Forum des Vocations. Installé dans un parc public de Rio, il est arpenté par des groupes de pèlerins s'interpellant les uns les autres, s'arrêtant pour chanter avec un groupe de religieuses ou discuter avec des prêtres. On disait les voix du Seigneur impénétrables, elles sont représentées dans 130 kiosques ouverts à tous et qui permettent de constater la richesse des possibilités d'engagement. Un groupe, communauté, séminaire, un de leurs membres, sourire aux lèvres, répond aux questions des curieux. C'est le cas de sœur Josiane, missionnaire de la communauté de l'Immaculée Conception en Guinée équatoriale. Le mot d'ordre pour les jeunes qui s'interrogent doit être pour elle la confiance.
C'était une invitation aux jeunes surtout à ne pas avoir peur. Dieu nous appelle, mais il nous appelle pour répondre d'abord à la première vocation, celle d'aimer les uns, de nous aimer, d'aimer les autres et de pouvoir servir là où il aimerait bien que nous soyons. C'est vrai que la société aujourd'hui apporte beaucoup d'offres qui parfois a tendance à étouffer l'appel à la vocation religieuse concrètement, mais c'est une occasion aussi pour les aider, pour les fortifier dans la foi et surtout les inviter à ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux.
La vocation n'est pas que religieuse, elle est évidemment avant tout celle du mariage et les couples de pèlerins sont nombreux. Parmi eux, Delphine et Yves de Périgueux, en France.
C'est vrai que moi, je me suis longtemps posé la question, mais c'est vrai qu'avec Yves, on s'est rencontrés. Donc nous, maintenant, enfin, c'est mariage. Donc voilà, on aimerait plutôt avoir enfin, plus des conseils ou approfondir notre vision du couple et du mariage de façon chrétienne. On se connaît depuis longtemps enfin, via la pastorale de notre diocèse. C'est pendant la semaine missionnaire qu'on s'est rencontrés de manière plus profonde. Les GMJ, c'est vrai que c'est bien, parce que ça permet de pouvoir rencontrer d'autres jeunes, d'autres chrétiens, et ça renforce aussi la foi. Et on s'exprime tellement pendant les GMJ qu'à la fin, quand on revient dans nos pays, qu'on a encore plus de force pour pouvoir témoigner.
Une énergie et un espoir que les pèlerins trouvent aux GMJ et qui les aident à avancer dans leur parcours de foi. Car en cette période de crise des valeurs et des vocations, si les jeunes ont besoin de l'Église, l'Église a surtout besoin des jeunes.
De Manille à Paris, de Madrid à Rio, les JMJ, événements religieux mais aussi médiatiques et festifs, continuent de remporter un succès considérable. Elles contribuent à renforcer l'appartenance catholique, aujourd'hui menacée de toutes parts. Présidée par un nouveau pape latino-américain au charisme fort, celles-ci ont de surcroît une forte connotation missionnaire et sociale. Mais les JMJ favorisent-elles pour autant la naissance de vocation ? L'abbé Dominique Fabien Rima, du diocèse de Fribourg-Lausanne, est à Rio pour les JMJ. Il nous explique l'importance d'un tel événement pour les vocations et pour réchauffer une foi qui, en Europe, se vit avec trop de tiédeur.
Moi, je pense que les Journées mondiales de la jeunesse, c'est une occasion, effectivement, pour qu'il y ait des vocations. On a tous une vocation. Déjà, la vocation à la vie, ensuite la vocation au baptême. Qu'est-ce qu'on fera de notre baptême ? Ben, y en a qui se marient, il y en a qui font des couples. Hein. Moi, j'ai été témoin de la rencontre de jeunes qui se sont rencontrés au JMJ et puis qui se sont mariés après. Et puis d'autres qui sont consentis un appel à la vie religieuse, à la vie consacrée et à devenir prêtre aussi. Alors bien sûr, on espère que le Christ puisse parler de façon profonde et intense et dans la conscience d'un jeune pour qu'il puisse s'engager justement à être missionnaire. J'aime bien le logo de cette Journée mondiale de la jeunesse avec ce cœur. Ben, le cœur, il bat, il y a toujours un mouvement d'envoi du sang et puis un mouvement de renouvellement du sang. Donc il faut reprendre le sang. Donc ça aussi l'Eucharistie et la confession. L'Eucharistie qui nous propulse et puis la confession qui nous ramène justement si on avait loupé la mission et qui nous ramène justement à l'essentiel. Et je dois dire, ben moi comme prêtre, ben c'est vrai qu'ils aiment beaucoup les prêtres ici, c'est fou, c'est vraiment incroyable quoi. On se balade sur la plage de Copacabana ici et tout à coup il y en a qui veulent faire des photos, il y en a qui vous embrassent la main, il y en a qui veulent une bénédiction, on est souvent arrêté. Et ils ont une révérence. Oui, ils aiment les prêtres. Et ça, c'est, je dois dire que c'est très émouvant et c'est très beau. Il y en a qui demandent de se confesser aussi. Par exemple, j'étais à la cathédrale l'autre jour, puis il y a un jeune qui a voulu se confesser. Alors l'italien et le portugais, on se comprend.
C'est une façon de vivre la foi qu'on a perdue, qu'on n'a plus en Europe ?
Peut-être qu'on est un peu fatigué. Hein, peut-être qu'on est un peu fatigué de la foi, alors ça fait peut-être un peu un contraste. Mais c'est vrai qu'ils sont assez exubérants, peut-être, exubérants, assez démonstratifs dans leur foi. Ils n'ont pas peur de la montrer. Il y a aussi les évangéliques hein, qui sont présents ici. Peut-être qu'on se gêne moins ici d'être peut-être catholique. Il y a sans doute de la tiédeur chez nous, ou peut-être un petit complexe des fois d'infériorité. Tandis qu'ici, on sent que ça fait partie de l'histoire du pays.
Et c'est ce qui fait du bien aux jeunes qui participent au JMJ, le fait de voir que dans d'autres pays, il n'y a pas cette tiédeur, ce complexe d'être catholique ?
Moi, je pense, oui, parce que d'être catholique, c'est aussi une joie, c'est aussi une mission, exactement.
C'est à la résidence de l'archevêque de Rio de Janeiro que le pape argentin a rencontré les détenus vendredi, troisième et dernière des rencontres symboliques avec des personnes en difficulté qu'il a voulu ajouter à son programme après les toxicomanes mercredi et les habitants d'une favela jeudi. Pendant la dictature militaire, des opposants au régime avaient trouvé refuge à l'intérieur de la résidence de l'archevêque. Le pape François s'y est entretenu en privé avec 5 détenus à l'abri des caméras. Le jeudi saint à Rome, quelques jours après son élection, le Saint-Père, souvenez-vous, avait lavé les pieds de 12 détenus, dont 2 jeunes filles, dans un centre de détention pour mineurs dans la banlieue de Rome, un geste sans précédent. Le pape François privilégie le contact avec les parias de la société, les petits, les pauvres, les oubliés, en toute simplicité, dans les sanctuaires de la souffrance humaine. Quand il était archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio avait coutume de rencontrer les détenus et il est resté en contact téléphonique avec eux. Il les appelle tous les 15 jours. Rien d'étonnant donc à ce qu'il ait voulu ajouter à ces JMJ une perspective résolument sociale en profonde cohérence avec les 4 premiers mois de son pontificat. Et à propos justement de l'importance de l'engagement social en matière d'évangélisation, je vous propose à présent d'écouter le commentaire de Paul Riksen, représentant au JMJ de l'organisation de l'Église belge Entraide et Fraternité. Il a vécu 3 ans au Brésil, dans l'État de São Paulo, comme volontaire à la coopération et au développement. Il a accompagné un groupe de 103 pèlerins belges francophones au cours de la semaine missionnaire qui a précédé l'ouverture des JMJ. Suite à la visite du pape dans une favela, il revient sur l'exigence de la justice sociale.
C'est un peu la tentation que nous pouvons avoir comme chrétiens, et je vois ça dans, un peu dans le groupe des jeunes belges aussi. Je pense que dans notre église, peut-être, en tout cas, le risque d'avoir la tentation de se replier sur elle-même, on est bien entre nous, qu'il est bon d'être ensemble, etc. Donc le pape François fait très fort non seulement en rappelant cette exigence de l'évangile, mais en la montrant, c'est-à-dire que lui, le pape, il est allé dans les favelas.
Ces gestes symboliques reposent sur la doctrine sociale de l'Église, c'est ça le fondement de cette évangélisation dans les périphéries ?
On pourrait dire ça, mais on pourrait dire simplement que ça repose dans le Christ qui a été révélé aussi à travers les évangiles. On peut vraiment voir dans les évangiles cet attachement à cette exigence de la justice sociale, elle est quand même très très forte. On parle de faim dans l'évangile, on parle de pauvres dans l'évangile. Et donc effectivement, l'Église a développé toute une doctrine sociale, les papes, mais aussi les évêques, et puis le peuple des baptisés aussi. Il y a toujours eu ce souci du pauvre, ce souci de développement de tout l'être humain, pas seulement l'être humain spirituel, mais la réalité concrète, corporelle, humaine, socio-économique est tout aussi importante. On ne développe pas seulement une spiritualité, on développe tout l'être humain. C'est ce que dit la doctrine sociale de l'Église et de tous les êtres humains.
L'Église au Brésil s'engage assez justement sur ce front de la détresse sociale.
En tout cas, il y a une longue expérience. Je pense que justement, un peu tous ces courants de la théologie de la libération, toute cette histoire brésilienne, a montré qu'effectivement, il est important pour les chrétiens de s'engager là-dedans. Peut-être que les chrétiens ne le font pas toujours et que c'est peut-être très bien que le pape François, qui est argentin, hein, rappelons quand même qu'il a vécu dans un quartier populaire, que c'est quelqu'un qui connaît la réalité de la pauvreté aussi, et met ça en lien très fort avec sa foi, bien, il vient peut-être nous tirer un peu l'oreille aussi de ce côté-là. Il faut aller à la périphérie, la foi, une évangélisation, ça ne peut pas être non plus le privilège de quelques-uns.
Justement, ces quartiers populaires, ces favelas sont l'exemple type de terre de mission, de terre d'évangélisation. On sait qu'ils sont disputés par des sectes, par des communautés, par différentes confessions.
Oui, effectivement, et c'est là qu'il faut du courage. Parce que justement, je pense que beaucoup de confessions, ne mettons pas tout dans le même sac, je ne veux pas juger, mais je pense que beaucoup d'églises pentecostales, évangéliques, etc., justement, ont plutôt une théologie qui est la théologie de la bénédiction. C'est-à-dire, ben voilà, vous faites partie de l'Église et puis Dieu va vous bénir. Or, je pense que l'Église nous demande de lutter. L'Église nous demande de nous mettre en danger, de prendre le risque. Je pense que si le Christ est mort, c'est justement aussi parce qu'il a révélé une image de Dieu qui était celle d'un Dieu qui était aux côtés des pauvres. C'est le Dieu des béatitudes. Et ce n'est pas un Dieu confortable où il suffit simplement de s'attirer les bonnes grâces de quelqu'un. Et nous sommes ici dans les Journées mondiales de la jeunesse, allées de toutes les nations faites mes disciples. Je pense qu'on peut se dire aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'évangéliser les personnes qu'on rencontre, mais de se laisser peut-être d'abord évangéliser. Se laisser d'abord toucher par cette parole d'amour qu'on peut trouver chez les gens. Et je pense que la plupart des chrétiens qui font cette expérience d'aller vivre avec les personnes en milieu de pauvreté, n'y vont pas d'abord pour leur apporter quelque chose, mais savent très bien le bonheur qu'ils reçoivent. Alors j'ai envie de dire, laissons-nous d'abord peut-être évangéliser, avant de vouloir évangéliser. Bien sûr, chacun a son rôle à jouer, hein, mais laissons-nous d'abord toucher par la grâce de Dieu à travers ces personnes qui essaient de se relever dans des situations parfois extrêmement pénible.
Paul Rixen de l'organisation catholique belge Entraide et Fraternité. Avant de déjeuner avec 12 jeunes garçons et filles des JMJ venant des 5 continents, le souverain pontife a récité l'Angélus avec les fidèles à midi, heure locale, depuis le balcon de l'archevêché. Une occasion pour les habitants de Rio de le voir et de l'entendre.
Je voudrais que mon passage dans cette ville de Rio renouvelle en tous l'amour pour le Christ et pour l'Église, la joie d'être unis à lui et d'appartenir à l'Église, et l'engagement à vivre et à témoigner la foi. Évoquant la mémoire liturgique, ce 26 juillet, des parents de la Vierge Marie, les saints Anne et Joachim, le pape a insisté sur la valeur précieuse de la famille comme lieu privilégié pour transmettre la foi et sur le rôle des grands-parents pour communiquer ce patrimoine d'humanité et de foi qui est essentiel pour chaque société. Le pape François a encouragé la rencontre et le dialogue entre les générations, surtout à l'intérieur de la famille. C'est un trésor à conserver et à alimenter. En ces journées de la jeunesse, les jeunes doivent saluer les grands-parents avec beaucoup d'affection et les remercier pour le témoignage de sagesse qu'ils nous donnent continuellement.
Samedi avant dernier jour des JMJ, le Saint-Père célébrera la messe avec les évêques, les religieux et les séminaristes dans la cathédrale de la ville avant de gagner le théâtre municipal où il s'adressera à la classe dirigeante du pays. La journée s'achèvera par la veillée de prière traditionnelle, un des temps forts des Journées mondiales de la jeunesse. En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur Rio, le programme des dernières journées a connu des changements. L'immense terrain de Guaratiba à 40 km de Rio a été abandonné pour la veillée de prière et la messe conclusive de dimanche. Ces deux événements se dérouleront tous deux sur la plage de Copacabana. Malheureusement, les jeunes ne pourront pas dormir sur place. Ainsi, la nuit à la Belle Étoile, expérience très importante pour les jeunes, tout comme le pèlerinage pour arriver sur les lieux de la veillée, sont abandonnés. Depuis janvier, des centaines d'ouvriers divers s'affairaient sur le champ immense de Guaratiba, rebaptisé Champ de la Foi. Des travaux importants et coûteux. Une spectaculaire estrade avec des centaines de colonnes où le pape François devait célébrer la messe ne sera pas utilisée. Enfin, sachez que pour la première fois depuis 1995, un groupe de catholiques de Chine populaire participe officiellement aux Journées mondiales de la jeunesse de Rio. 16 délégués provenant de 10 diocèses. Cela a été possible grâce à la contribution d'une congrégation missionnaire et de la commission diocésaine des jeunes de Hong Kong. L'agence de presse UK News rappelle qu'une délégation officielle chinoise avait participé au JMJ de Manille en 1995, mais elle avait dû se retirer avant la messe avec le pape Jean-Paul II à cause de la présence de drapeaux de Taïwan. Le président Barack Obama a interpellé jeudi son homologue vietnamien au sujet du respect des libertés de culte et d'expression. Il le recevait dans le bureau ovale. C'était la seconde visite officielle d'un président vietnamien à la Maison-Blanche depuis 1975. Plusieurs centaines de membres de la communauté vietnamienne réfugiée aux États-Unis avaient protesté contre sa venue. Des associations avaient dénoncé les atteintes aux droits de l'homme et à la liberté religieuse au Vietnam. Par ailleurs, selon l'agence Église d'Asie, les familles des prisonniers politiques au Vietnam, dont de nombreux catholiques, ont fait parvenir une lettre ouverte au président des États-Unis, lui demandant d'exiger leur libération immédiate avant de signer des accords bilatéraux et de refuser de se rendre au Vietnam tant que les droits de l'homme n'y seront pas totalement respectés. Le mois dernier, la sécurité publique vietnamienne a interdit le voyage à Rome d'un témoin important du procès de béatification du cardinal Van Thuan, archevêque coadjuteur de Saïgon, qui a longuement séjourné dans les prisons du régime vietnamien avant d'occuper des postes importants à la curie romaine. Ce témoin est un ancien haut fonctionnaire du bureau des affaires religieuses. Il devait participer le 5 juillet dernier à la cérémonie conclusive de l'enquête diocésaine en vue de la béatification du cardinal. Sa vie a été transformée à la fin des années 1970 par sa rencontre avec le futur bienheureux détenu secrètement dans les locaux de la sécurité de Hanoï. Selon lui, le gouvernement vietnamien voit d'un mauvais œil la béatification du cardinal Van Thuan. C'est la fin de ce magazine, mais vous pouvez à tout moment retrouver toutes les informations sur les JMJ et le voyage du pape François au Brésil sur notre page internet radiovaticana.va. Vous pourrez y suivre les temps forts de la semaine en vidéo avec commentaires en français. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.